bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien c'est le 1 712 432 9 978. Alors aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou. Tout de suite, donc pour commencer, voici Sentez-vous bien. Bienvenue pour notre émission Sentez-vous bien, une émission de santé avec le docteur Jean Lindsay. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Merci de nous retrouver à ce micro. Alors aujourd'hui, vous reviendrez sur une information que vous avez déjà traitée par ailleurs. Il s'agit de la pollution atmosphérique qui génère près de 50 000 morts par an, je crois.
Ouais, on estime, oui, ça. Oui.
Et alors, vous dites même qu'au regard de la qualité de l'air actuel, c'est comme si nous étions sur une autre planète ou qu'on arrivait sur une autre planète.
Oui, c'est un article de Rémi Slama, épidémiologiste environnemental et titulaire de la chaire annuelle de santé publique au Collège de France. Rémi Slama dit qu'un bébé qui naît aujourd'hui dans notre société, c'est un peu comme s'il arrivait sur une autre planète.
Mais c'est pas positif comme terme.
Ah ben non.
Non,
non parce que l'air qu'il va respirer, la nourriture qu'il va manger et les boissons qu'il va absorber n'ont plus rien à voir avec ce que ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents ont pu connaître et contiennent des substances tout à fait imprévues.
Et alors, quelles sont ces substances, par exemple?
Ben, vous avez,
pour en citer quelques-unes.
Vous avez les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire toute une gamme de molécules qui interfèrent avec la dentelle incroyable que représentent les systèmes hormonaux de l'homme. Vous avez les métaux lourds, qui sont des poisons, en particulier du système nerveux. Vous avez les pesticides, qui sont des molécules qui attaquent le vivant à la racine et qui nous attaquent nous aussi, finalement. Vous avez tous les polluants que l'on rejette dans l'atmosphère, et en particulier les particules de diesel, les particules hydrocarbonées rejetées non seulement par le diesel, mais maintenant par les essences, et par les pneus, et par les freins des voitures, dont la nocivité est très établie. Et puis, vous avez les boissons fabriquées par l'homme, qui peuvent contenir des pesticides, et puis que l'homme s'est ingénié à rendre nocif en mettant du sucre partout, ou des édulcorants, des colorants, tout ça est bien documenté. En 1800, le Français consommait 2 kilos de sucre par an. Aujourd'hui, il en consomme 40 et l'Américain 80. Et ça, ça a des conséquences catastrophiques sur la santé. Oui.
Quand on parle, docteur Jean Lindsay, de près de 50 000 morts par an, ça veut dire...
Ça, c'est pour la pollution atmosphérique.
C'est pour la pollution atmosphérique.
Ouais, ouais.
On ne met pas là-dedans la question alimentaire.
Non, non, non.
C'est encore autre chose.
C'est encore autre chose.
Et alors, cette pollution atmosphérique, si on y revient, elle génère des maladies. Quel genre de maladies?
Elle donne des bronchopneumopathies chroniques obstructives, des bronchites chroniques. Elle donne des cancers du poumon. Elle donne des maladies cardiovasculaires. Et comme en plus, on a une sédentarité qui continue à croître chez les jeunes. C'est incroyable, ça. Et ça s'est aggravé avec la crise du Covid, avec les confinements. Et puis, le génie incroyable que les hommes ont à vouloir absolument se mettre des moteurs partout.
Se faciliter la vie.
Faciliter la vie. C'est le cinquième renforçateur, ce qui donne du plaisir à l'homme. C'est la nourriture, le sexe, le pouvoir, la curiosité. Et puis, le plaisir suprême, c'est la paresse. Donc, nous, on a fait des sociétés qui nous... nous permettent, on peut se permettre d'être paresseux dans nos sociétés, on peut se permettre de...
D'en faire le moins possible.
D'en faire le moins possible.
Mmh. Mais ça, c'est pas bon pour l'homme, justement.
Et justement, on n'est pas fait pour ça. Mmh. Et donc là, ce qui fait que maintenant, on observe un phénomène étonnant et inquiétant, c'est qu'on observe maintenant des infarctus chez les jeunes de moins de 30 ans.
Ça commence à être alarmant.
Et puis aussi les diabètes de type 2 chez les enfants. On voit les diabètes de type 2, vous savez, le diabète de la personne âgée, on en voit chez les enfants. Donc les transports en commun obligatoires, les voitures, évidemment, surtout les premières sources de passivité, ben c'est les voitures. On n'a rien contre les voitures, on n'a rien contre les transports en commun, mais il faut s'organiser pour avoir des occasions transformant les temps de transport en temps de sport.
Oui, parce que finalement, les transports en commun polluent et en même temps renforcent la sédentarité.
Voilà, alors que le train est un merveilleux moyen de transport d'une efficacité extrême pour les longues distances. Mais dans les courtes distances, ça n'a pas de sens de prendre un transport en commun. Il faudrait concevoir les rues et les routes comme des salles de sport gratuites sur lesquelles on peut marcher, courir, faire du vélo.
C'est ça la solution justement pour dépolluer cet air nocif.
On fait d'une pierre deux coups. Uh-huh. On dépollue en même temps qu'on a l'activité physique. Et en même temps, on se libère de la dépendance aux énergies fossiles que nous n'avons pas et qui nous coûte une fortune et nous rendent très fragiles. Et donc, il faudrait appliquer le principe de subsidiarité et n'utiliser un moteur que quand on ne peut pas faire autrement. Mmh. Et si le jour où on ne peut pas faire autrement, il faut utiliser le moteur le plus petit et le moins polluant possible. C'est-à-dire bien souvent, simplement, un petit moteur électrique sur un vélo, sur lequel on pédale. C'est-à-dire que le moteur vient juste vous aider un peu, vous permet de résoudre vos problèmes, de transporter vos courses, transporter vos enfants, sans polluer, sans faire de bruit, et tout en ayant l'activité physique. L'intérêt des vélos à assistance électrique, comme le nom l'indique, ça ne fait qu'assister, et donc vous avez quand même l'activité physique.
Donc le fin mot de l'histoire, docteur Jean Lindsay, même au regard de la pollution atmosphérique qui génère près de 50 000 morts par an, c'est l'activité physique.
Ah ben oui, puisqu'elle est la clé de voûte de tout. Mm-hmm. Le temps libre que vous avez, puisque les Français ont, selon les stats, il paraît qu'ils auraient 6 heures de temps libre par jour en moyenne, ben, il faut consacrer une heure par jour à faire du jardin, à produire sa nourriture. Un homme ou une femme habile pourrait produire la nourriture dont il a besoin tous les ans avec une heure d'activité physique dans le jardin par jour. Si vous faites vos légumes et vos fruits, là, pour ce qui est du circuit court, vous ne pouvez pas faire plus court.
Merci beaucoup, docteur Jean Lindsay. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. On se retrouvera pour un prochain Sentez-vous bien, où vous reviendrez sans doute sur d'autres sujets, et notamment sur la sédentarité qui prend une place tellement importante aujourd'hui qu'il est important de dire et répéter qu'il faut de l'activité physique. Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir, Oscar.
Au revoir.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Top Cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Présentée par Oscar Miani.
Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jesmylène Lopez. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Alors Jesmylène, vous êtes passionnée de cuisine et de cuisine saine notamment.
Oui.
Et aujourd'hui, vous nous proposez une recette. Ce sera quoi cette recette ?
Donc cette recette, ça sera épinard à la béchamel, mais sans lait.
Et alors donc, quand vous nous dites ça, Jesmylène, on entend que vous avez un petit accent. Et alors, il vient d'où cet accent ?
Il vient du Portugal.
Du Portugal ?
Oui.
Vous êtes portugaise ?
Non, je parle portugais plutôt.
Ah d'accord, vous parlez portugais, mais oui. Vous venez pas du Portugal. Alors,
non, je viens pas du Portugal, je viens de São Tomé et Príncipe. C'est mon pays d'origine.
D'accord.
Mais j'ai grandi au Portugal.
Et donc, vous parlez portugais, français ?
Oui.
Vous apporterez des petites touches parfois exotiques à vos recettes?
Oui, ça serait bien que je puisse vous présenter des choses aussi de mon pays, du Portugal, pourquoi pas.
Mais oui, on est demandeurs.
Oui, et des touches, comme vous dites, exotiques.
Voilà, c'est ça. Alors donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura une touche exotique dans les épinards à la béchamel sans lait, mais on vous écoute. Quels ingrédients faut-il, Jesmylène, pour cette recette?
J'ai préparé une recette plutôt française.
Oui.
Parce que c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, des épinards. J'ai préparé sans lait parce que il y a des gens qui sont intolérants au lait. J'ai pensé à ces gens-là. Alors, pour cette recette, on aura besoin des ingrédients comme 800 grammes des épinards.
Ça, c'est pour 4 personnes. Hein.
Oui, c'est une recette pour 4 personnes.
Voilà.
30 grammes du beurre, 30 grammes de la farine, 60 centilitres de sauce soja.
Donc, pour remplacer le lait, justement, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. On va remplacer le lait par la sauce soja. sel, poivre, un oignon moyen, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 60 grammes de fromage râpé pour ceux qui mangent du fromage.
Pour ceux qui mangent du fromage.
Oui.
Et pour ceux qui n'en mangent pas, ils mettent pas de fromage?
Ils mettent pas du fromage.
D'accord.
Ils pouvaient remplacer par d'autres choses que je sais pas vous dire.
Donc pour
mais
ceux...
ils connaissent bien.
Voilà.
Top Cuisine.
Une fois qu'on a tous ces ingrédients-là, Jesmylène, qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi on commence? Comment ça se passe?
Alors, la première étape, il faut bien laver les épinards. Il faut bien les trier, les quêter, les rincer.
Oui.
Dans une casserole, vous allez mettre l'oignon, l'ail, le deux haché et huile d'olive. Après, vous faites chauffer à feu doux pendant 5 minutes. Et vous rajoutez des épinards.
Donc on ajoute les épinards à l'huile d'olive, à l'ail,
oui,
aux oignons,
oui,
c'est ça?
Oui,
comme
oui,
ça, à
oui,
feu doux.
À feu doux.
Au bout de 5 minutes.
Au bout de 5 minutes, oui.
On mélange?
On mélange et on laisse.
Vous pendant, pouvez, pendant combien de temps est-ce qu'il faut laisser?
Pendant 10-15 minutes. Et vous pouvez mettre aussi un tout petit peu d'eau, on va dire 2 cuillères à soupe d'eau.
Vraiment un tout petit peu?
Un tout petit peu.
Et puis, quand on a terminé, là, ça, de mélanger les épinards avec l'huile d'olive, l'oignon, l'ail, qu'est-ce qu'on fait?
On laisse. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, on laisse de côté et on va préparer.
On éteint le feu et on laisse de côté.
Oui.
D'accord.
Ou sinon, pendant le temps qu'il est à feu doux, on va préparer la sauce béchamel.
D'accord. Alors, comment est-ce qu'on la prépare, cette sauce béchamel? Je crois que vous avez une façon bien particulière qui est la vôtre. Hein.
Oui, j'ai une façon que c'est très facile, très facile et rapide.
Plus c'est facile et plus les auditeurs aiment.
Pour les gens qui n'ont pas de temps, cette façon de faire la sauce béchamel, pour moi, c'est plus simple.
Et alors, comment vous faites, Jesmylène, la sauce béchamel?
Vraiment, c'est très très simple. On met tout dans la casserole et on mélange.
Tout, c'est quoi? C'est quels ingrédients quand vous dites tout?
Ah oui, tout, c'est vrai. Il faut que je précise.
Oui,
donc
c'est
30 grammes du beurre, 30 grammes de la farine, 60 centilitres de sauce soja, 200 millilitres d'eau, des sel et du poivre.
Donc on mélange tout ça dans la casserole?
Vous mélangez tout ça dans la casserole.
D'accord. En même temps. D'accord. Donc on mélange tout ça dans la casserole et comment ça doit se passer?
Donc on mélange tout ça dans la casserole, qu'on mélange jusqu'à ce que ça devienne homogène.
Homogène, donc c'est-à-dire sans grumeaux, c'est ça, hein?
Sans grumeaux.
Oui, d'accord.
Et puis on continue à mélanger.
Pendant combien de temps?
Jusqu'au moment que la sauce, elle épaississe.
Comme une béchamel, quoi.
Oui.
Voilà.
Et puis quand on voit qu'elle est épaisse, elle est bonne.
C'est tout?
C'est tout.
C'est aussi simple?
C'est simple.
Et à feu doux aussi?
À feu doux toujours.
Surtout à feu doux.
Oui,
hein.
Oui.
Et une fois qu'on a terminé cette béchamel?
Une fois que vous avez terminé la béchamel, vous préchauffez le four à 200 degrés. Et dans un plat avec un bord haut, vous mélangez les deux préparations.
D'accord.
Et puis
les épinards
plus la sauce béchamel.
On mélange tout ça.
Vous mélangez bien.
On met tout ça dans un plat.
Dans un plat. Et après, vous mettez le fromage râpé par-dessus.
D'accord. Et on met tout ça au four pendant combien de temps?
On met tout ça au four pendant 10 minutes, c'est bon. C'est juste le temps que le fromage s'y fond un peu.
Soit fondu.
Oui.
Voilà. Et c'est
donc,
prêt.
Donc, la préparation, elle est prête.
Et il n'y a plus qu'à manger.
Prêt à servir.
Voilà. Donc, voilà, c'était les épinards à la béchamel sans lait. Merci beaucoup, Jess Mylène, pour cette recette que vous êtes venue nous donner au micro de Top Cuisine. On va se régaler avec ce plat.
J'espère bien.
Et puis, en attendant, est-ce que vous pouvez nous donner l'eau à la bouche avec la nouvelle recette que vous nous proposerez lors de la prochaine émission?
Alors, pour la prochaine émission, j'ai pensé à vous proposer un poivron farci au riz à la sauce tomate.
On a hâte de se retrouver pour cette nouvelle émission. Merci beaucoup. Au revoir, Jess Mylène. À bientôt.
Au revoir, Oscar. À bientôt.
C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
Valeur ajoutée,
Une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
Le 13 janvier 1898, l'écrivain Émile Zola publie à la une du journal L'Aurore un long article de 8 colonnes dont le titre est resté célèbre jusqu'à aujourd'hui. J'accuse. Cet article est une lettre ouverte au président de la Troisième République, Félix Faure. Zola dénonce dans cet article la condamnation au bagne pour trahison de l'officier juif Alfred Dreyfus. L'impact de cet article amènera à la révision du procès l'année suivante et à la réhabilitation totale de Dreyfus en 1906. C'est dans le cadre de cette affaire Dreyfus que, probablement sous la plume d'Anatole France, apparaît en 1900 le mot « xénophobe ». Le mot est donc créé pour l'occasion à partir de deux mots grecs, « xénos » qui signifie « étranger » et « phobos » qui signifie « peur ». Xénophobe, la peur de l'étranger, qui amène au rejet de l'autre. Pourquoi rappeler cet événement historique pour traiter de l'hospitalité ? Il m'a semblé intéressant d'aborder cette valeur par son contraire, la xénophobie. Ainsi, en grec, hospitalité se dit philoxénia, amour de l'étranger, qui est exactement le contraire de xénophobie, peur de l'étranger. On retrouve dans ce mot grec philoxénia la racine xénia, xénos, l'étranger dont nous avons parlé, et philos, beaucoup plus connu dans notre langue, qui veut dire ami. Plusieurs mots de la langue française sont formés à partir de cette racine. Ne citons que philanthrope, qui veut dire, à la base, ami de l'être humain. Et même si en français, notre mot « hospitalité » est d'origine latine, la filiation perdure. Hébergement gratuit des étrangers, des pèlerins, des indigents, voilà quelle est l'origine du mot « hospitalité ». Contrairement à d'autres valeurs, comme la douceur par exemple, qui peut être un état, l'hospitalité est spécifiquement une action, l'acte d'accueillir l'autre. Sujet ô combien sensible, car si je veux être fidèle à l'origine du mot, et prendre le mot « étranger » au sens propre, parler de l'hospitalité m'amène à parler du grave problème des réfugiés de toutes sortes qui voudraient venir en France, que ce soit les réfugiés politiques, économiques, ou très bientôt beaucoup plus nombreux, les réfugiés climatiques. Réfléchissons-nous dans notre quotidien à la façon dont nous pourrions vivre l'hospitalité. Je comprends aisément qu'il soit très difficile demain d'accueillir chez soi une famille de Syriens, mais n'y a-t-il pas des manières beaucoup plus simples d'être dans l'hospitalité? Par exemple, autant il me serait plus que compliqué d'accueillir des migrants plusieurs semaines ou plusieurs mois chez moi, autant, si l'occasion se présentait, il serait relativement facile d'inviter une famille d'étrangers pour partager un repas dans ma cuisine ou ma salle à manger. C'est à réfléchir. Et puis, même si ce que je vais dire est un peu bateau, notre propre voisin de palier ou tout du moins d'immeuble ou de rue ou de quartier n'est-il pas devenu dans nos sociétés un véritable étranger? Ainsi, en revenant à la définition du mot, dois-je restreindre l'hospitalité à la notion d'étranger au sens strict du terme? Alfred Dreyfus, dont nous parlions, était tout ce qu'il y a de français, juif certes, et je le dis car clairement c'était une affaire antisémite, mais il était bien français et il finira lieutenant colonel de l'armée française. Ainsi dans le mot xénophobe, le plus interpellant n'est peut-être pas le mot étranger, mais le mot peur. La difficulté de l'accueil de l'autre n'est souvent pas une affaire de rejet de l'étranger, mais souvent une simple peur de l'autre, ou pour le moins une défiance. Je pense qu'il peut être profitable à chacun de réfléchir comment être un petit peu plus hospitalier. Il y aurait peut-être un simple exercice à pratiquer qui ne prendrait guère plus de 5 minutes. Simplement faire une pause, essayer de se rappeler les fois où quelqu'un a su nous accueillir, dans sa maison pour un repas par exemple. J'ai fait cet exercice, et mon exemple est tout simple, mais il ne va pas me rajeunir. C'était à l'époque, allez, somme toute pas si lointaine, où il n'y avait pas de téléphone portable et peu de cabines téléphoniques à la campagne. Je prends cet exemple justement parce qu'il m'a fallu un peu de temps pour me le rappeler. Une époque où tomber en panne de voiture en rase campagne demandait presque obligatoirement d'aller sonner à la première ferme pour pouvoir passer un coup de téléphone. Cela peut nous sembler très éloigné de l'accueil de l'étranger, mais en fait, pas tant que ça. Une des scènes de jugement les plus célèbres de la Bible est certainement celle que nous trouvons dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Jésus, dans cette scène, complimente les personnes qui sont venues lui donner à manger et à boire, les personnes qui lui ont donné un toit ou des vêtements. Ces dernières interrogent Jésus pour savoir quand est-ce qu'elles ont accompli tout cela, car en fait, elles ne l'avaient jamais rencontré physiquement. Et alors Jésus leur répond, « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. »
C'était « Valeur ajoutée », une réflexion de Pierre Péchaud.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain.